Bonjour Benjamin Burbaumer, l'invité de Rien à voir, magazine de la rédaction d'Alternante FM, maître de conférences en économie à Sciences Po Bordeaux, auteur du Souverain et le marché paru aux éditions Amsterdam, est intervenu dans le cadre de l'UMA Café de Nantes sur le thème « 30 ans après Maastricht, l'Europe libérale ». Le traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992 et entré en vigueur le 1er novembre 1993 prévoyait que l'Union se base sur les communautés européennes, premier pilier, la politique étrangère, deuxième pilier, la sécurité commune, la justice et les affaires intérieures, troisième pilier.
Il y a plusieurs piliers, mais si on regarde les choses rétrospectivement, et puisque de toute façon les piliers ont disparu, il me semble que la transformation économique entraînée, engendrée par Maastricht, a été celle qui a eu le plus de conséquences les plus durables, les conséquences que nous ressentons encore aujourd'hui, parce que ce que ce traité a favorisé, c'est un développement inégal en Europe, inégal à la fois en ce qui concerne les inégalités au sein de chaque pays, mais inégal aussi en ce qui concerne les inégalités entre les pays. Donc c'est un traité, de ce point de vue, qui a produit des conséquences largement inégalitaires.
On va parler des conséquences après, mais juste pour nous rappeler le contenu du traité.
Pour celles et ceux qui se reconnaissent dans cette idée qu'il faut rapprocher les différents peuples d'Europe, ça peut sembler séduisant. Mais encore faut-il regarder dans les détails. Alors les textes juridiques, c'est vrai, ça ne se lit pas très aisément. Et en plus, généralement, les dirigeants politiques et économiques ne font pas beaucoup d'efforts pour, en réalité, faire comprendre ce qu'il en est de ce traité. Donc on va juste regarder un petit peu les points fondamentaux. Et ce qui me semble le plus central dans le traité de Maastricht, ce sont les règles budgétaires. Donc c'est le fameux limite de 3% en ce qui concerne le solde public, donc le déficit public, et la limite à 60% de l'endettement des États. Ce sont là, en réalité, deux choses assez fondamentales parce qu'elles vont durablement impacter la capacité des États à dépenser de l'argent public. Et comme chacune sait, la dépense publique vise essentiellement à réduire les inégalités. Et donc, limiter les dépenses publiques, c'est limiter les capacités des États à intervenir pour réduire les inégalités. Donc ça, c'est un premier point qui a été développé. Ces limites ont été développées sous prétexte que ça favoriserait la convergence entre les différentes monnaies en Europe. Chose, comme on le sait aujourd'hui, n'a pas réellement eu lieu malgré l'introduction de l'euro, puisque en réalité, l'euro est sous-évalué ou surévalué selon les fondamentaux économiques des différents pays. Voilà, le traité inscrit donc l'austérité, en quelque sorte, grave l'austérité dans le marbre. Et on peut ajouter aussi que là, à ce moment, se développent les compétences exclusives de la Commission européenne. Ces compétences exclusives de la Commission européenne sur lesquelles elle a la main, elle a l'initiative, ce sont le commerce, la concurrence et la monnaie. Donc ce sont trois domaines qui seront transposés à l'échelle européenne. Et ce qui est très important, c'est que finalement là, pour les besoins sociaux, il n'y a rien à l'échelle européenne. Les questions du travail, le social, ça reste réglé à l'échelle nationale, sauf que cette échelle nationale est devenue subordonnée aux compétences exclusives de la Commission européenne. Le traité transforme le social, l'environnement, on pourrait ajouter aussi, en variable d'ajustement pour les politiques libérales.
Mais ce volet social était prévu à la base.
Alors, je ne sais pas s'il était vraiment prévu. Alors, ce qu'on a vu avec Maastricht, c'est par exemple le fonds de cohésion régionale qui devait œuvrer en faveur du rapprochement pour éviter des trop grandes disparités entre les différentes régions d'Europe. Sauf que ce fonds est notoirement sous-doté. Juste pour vous donner une idée, ce fonds, il est doté d'à peu près 0,33% du PIB européen. Alors, ce n'est pas très parlant dit comme ça, mais je vous donne un exemple pour prendre un peu la mesure de ce que ça signifie. On a en Europe deux États qui ont des disparités très fortes historiquement. On peut prendre l'Italie. entre un sud très pauvre et un nord très développé. Et donc ce que fait l'État italien, c'est qu'il transfère de l'argent du nord vers le sud, de la région riche vers la région pauvre, pour favoriser le développement de la région pauvre. Et chaque année, donc, l'État italien transfère entre 4 et 5% du PIB vers le sud. En Allemagne, on a une dynamique similaire entre l'Est et l'Ouest. Et donc, on a, dans le cas de l'Italie, des transferts autour de 4%, ce qui est autrement plus élevé que les 0,33% de Maastricht. Et pourtant, les inégalités régionales restent très très fortes en Italie. Tout ça pour dire qu'en Europe, du coup, c'est largement insuffisant, d'autant plus que, en réalité, les inégalités entre les régions les plus pauvres d'Europe et les régions les plus riches sont encore plus fortes. Donc c'est totalement, totalement insuffisant. Et puis, il était question aussi d'une charte sociale, pour en quelque sorte étendre les droits des travailleurs aussi à l'échelle européenne, sauf que cette charte sociale, c'était déclaration de principe, alors que la libéralisation financière, les transformations monétaires, ça c'était du concret, obligatoire. Donc là aussi, on a un très très net décalage, et finalement, cette Europe sociale dont on pouvait espérer des amorces au moment de Maastricht n'a absolument pas vu le jour.
C'était pour développer une citoyenneté européenne et une politique étrangère, une sécurité commune. Ça, c'est l'intention.
C'est l'intention, mais... Alors, j'ai sans doute un petit biais d'économiste, mais il me semble quand même que quand un cadre institutionnel, comme par exemple le traité de Maastricht, renforce les inégalités entre les régions d'Europe, ça ne favorise pas forcément le sentiment d'appartenance à la même communauté de destin qui serait une communauté de destin européenne. Et d'ailleurs, la recherche sur le sentiment d'appartenance à l'UE montre quand même des résultats très très clairs. La popularité des institutions européennes est la plus faible dans les classes populaires, dans tous les pays européens, et elle est plus faible aussi dans les pays périphériques, les pays les plus pauvres de l'Union européenne, que ce soit au sud ou à l'est. Donc on est là très très loin de la formation d'une citoyenneté européenne. Et de la même manière, quand on pense politique étrangère, dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine, on voit très bien que ce projet-là n'a pas non plus eu lieu.
En 92, ce sont 12 pays qui l'ont signé, ce traité. Aujourd'hui, il y en a 27. Il y en a eu 28. Est-ce que, d'une certaine manière, c'était déjà plombé à la base, ou c'est le fait que la communauté européenne se soit élargie?
L'objectif même, on pourrait dire, des traités de libre-échange, c'est... Enfin, le principe, c'est plus il y a de participants, mieux c'est. Ça, c'est en quelque sorte la vieille théorie des avantages comparatifs de David Ricardo. Plus les pays libéralisent, mieux c'est, supposément. Sauf qu'il faut bien garder à l'esprit que quand vous avez des économies qui sont à des stades de développement très différents, typiquement le stade de développement de la Grèce en 1992 n'était pas le même stade de développement des Pays-Bas, qui étaient autrement plus riches. Donc quand vous mettez des économies très inégalement développées sous les mêmes règles institutionnelles, sous les mêmes règles de libre-échange, eh bien, ça produit des résultats inégaux. Ça favorise ceux qui sont déjà les plus développés, et ça se fait au détriment de ceux qui sont les moins développés. Avec une sorte de résultat paradoxal, on pourrait même dire quasi cynique, qui consiste en réalité à mettre en concurrence les différentes périphéries. Parce qu'avec l'élargissement à l'Est, en 2004 et en 2007, ceux qui étaient en quelque sorte les pays d'approvisionnement à bas coût, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, ont été en partie remplacés par de nouveaux pays d'approvisionnement à bas coût qui sont ceux de l'Europe de l'Est. Donc il y a aussi une concurrence directe entre les périphéries et qui évidemment ne joue pas non plus en faveur de la cohésion d'ensemble de cette union.
Pas de chance, c'est un train de marchandises, c'est plus long.
C'est très bien que ça existe encore. Ça serait un beau projet. Le rail à l'échelle européenne, évidemment, ça serait formidable. Et là, typiquement, homogénéiser le fonctionnement du rail, évidemment vers le haut, pas par la privatisation.
Il me semblait que ça avait profité l'Irlande, le Portugal et l'Espagne.
Alors, mais très bien, entrons dans les détails. Donc on a cette Union européenne issue de Maastricht, qui promet notamment la libre circulation des marchandises et des capitaux. Et les deux vont de pair. Donc on a une situation où des entreprises industrielles du centre de l'Europe, donc l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, la Finlande, qui sont beaucoup plus performantes que les entreprises de l'industrie espagnole, par exemple. Donc les consommateurs espagnols pouvant accéder très facilement ou bien produits en Allemagne, pour le dire comme ça schématiquement, vont acheter des produits allemands. Et en plus, comme il y a aussi la libre circulation des capitaux, les banques allemandes vont pouvoir donner des crédits aux consommateurs espagnols pour pouvoir acheter les marchandises allemandes. Donc c'est doublement gagnant pour les entreprises allemandes, c'est perdant à moyen terme pour les consommateurs ou l'Espagne plus largement parce que ça désindustrialise et appauvrit le pays. Donc là, on a une logique qui pouvait marcher pendant un certain temps. Les consommateurs espagnols pouvaient consommer des marchandises espagnoles parce qu'ils pouvaient s'endetter. Mais avec la crise, et les crises, les bulles financières finissent toujours par éclater, avec la crise, les banques allemandes étaient devenues beaucoup plus réticentes à prêter aux consommateurs espagnols. Donc la consommation là, a dû s'effondrer aussi pour cette raison-là, qui d'ailleurs a poussé aussi l'Allemagne à chercher des marchés d'exportation en dehors de l'Union européenne. Donc là, on a une illustration typique de ce que c'est le développement inégal et les conséquences négatives que ça peut entraîner. De la même manière, on pourrait mentionner l'Irlande. C'est assez impressionnant. Dans les années 60, la richesse de l'Irlande était à peu près la moitié de celle de l'Allemagne. Et dans les années 2010, l'Irlande se situe à peu près au même niveau que l'Allemagne en termes de richesse produite. Mais cette richesse produite, en réalité, cette augmentation, cet enrichissement de l'Irlande a eu lieu dans les années 90. Donc immédiatement après la libéralisation des flux financiers, de la libéralisation des capitaux. Et c'est cette libéralisation-là qui a permis à l'Irlande d'attirer les bénéfices d'un ensemble de sociétés qui ne voulaient pas se soumettre à la fiscalité de leur pays d'origine. Donc ce que l'Union européenne a permis aussi, c'est effectivement un développement très très rapide de l'Irlande qui auparavant était pauvre, mais ça se fait de manière totalement non coopérative puisque l'Irlande siphonne les revenus fiscaux des autres pays européens. Donc un des seuls pays qui a réellement réussi à s'enrichir grâce aux institutions européennes l'a fait justement contre les autres pays européens puisque c'était une démarche totalement non coopérative en matière de fiscalité et qui fait, évidemment c'est pas que l'Irlande, mais qui fait qu'en France aujourd'hui, un tiers des recettes de l'impôt sur les sociétés, donc l'impôt sur le bénéfice, manquent dans les caisses de l'État à cause de l'évasion fiscale. Et la grande majorité de ce tiers qui manque se trouve dans des paradis fiscaux situés au sein de l'Union européenne. Donc là, on est en bon droit de s'interroger si ça, c'est vraiment la coopération européenne.
Qu'est-ce qui fait que sur un traité commun, on puisse admettre qu'il y a des politiques fiscales différentes ?
Alors j'ai parlé tout à l'heure de développement inégal, à la fois développement inégal au sein des pays et entre les pays européens. Et évidemment, quand on dit inégalité, c'est un terme relatif. Ça renvoie au rapport entre des pauvres et des riches. Et j'ai surtout insisté pour l'instant sur les travailleurs, sur ceux qui sont relativement appauvris. On peut maintenant regarder un peu l'autre côté, donc ceux qui se sont enrichis, évidemment. Et là, dans la recherche sur la construction européenne, il y a une chose qui est très très clairement établie dans les années 90, 80 et 90. Il y a une fraction du capital qui a substantiellement impulsé la dynamique, la forme que va prendre l'Union européenne. C'est ce que les chercheurs, notamment aux Pays-Bas, à l'université d'Amsterdam, appellent le capital transnational, qui est une sorte d'alliance entre la finance et les grandes firmes multinationales européennes. Donc c'est là qu'on trouve effectivement les bénéficiaires de cette intégration européenne, ces entreprises-là, et évidemment leurs actionnaires qui font partie des 1% les plus riches dans la population, puisque les actionnaires, en réalité, dans leur immense majorité, font partie des 1% les plus riches. Il n'y a quasiment personne dans la population qui est actionnaire. C'est une toute petite poignée de personnes. Donc effectivement, on a là des gagnants qui ont effectivement encaissé des bénéfices très très substantiels grâce à la construction européenne. Mais quand on regarde sur le plan agrégé, on est bien face au constat que ce qui est issu du traité de Maastricht, c'est un développement fondamentalement inégal.
Qui est quand même porté par des êtres humains. C'est pas d'une manière abstraite, les multinationales.
La première chose que je dirais, c'est que j'ai parlé de la fraction transnationale du capital. Elle se matérialise très concrètement dans une institution qui s'appelle l'ERT, European Roundtable of Industrialists. Et c'est sur cette institution-là, sur cette réunion de grands patrons, que se focalisent justement les recherches menées à Amsterdam que j'ai évoquées. Et donc, ils produisent des papiers, ils produisent des feuilles de route. Et là, on trouve déjà très très directement ce qui va devenir le traité de Maastricht dès les années 80. Donc effectivement, il y a ces personnes Et ensuite, il y a évidemment des décideurs politiques, que ce soit à l'échelle européenne ou nationale, qui mettent en œuvre ces projets. Évidemment, c'était un processus contesté. Le traité de Maastricht a par exemple été refusé dans un premier temps au Danemark. Qu'est-ce qui a été fait ? Un deuxième référendum a été organisé pour que le oui l'emporte. Évidemment, il y a une expérience similaire en France, il y en a aussi aux Pays-Bas. Donc c'est un processus contesté, mais n'empêche, ce qui est assez frappant, on a une étude sur qui discute d'intégration européenne. C'est une étude qui a été faite en 2014. Et ce qui est assez frappant, c'est que les prises de parole sur l'Union européenne dans les médias, c'est principalement les institutions européennes elles-mêmes ou les gouvernements nationaux. Donc on n'a pas de débat public en réalité sur le devenir de l'intégration européenne. Et pourtant, ça a toujours été un processus contesté, mais qui en fait, auxquels on ne donne pas vraiment les cadres. Et les rares fois où il y a un cadre, comme les référendums, souvent, derrière, quand le vote de la population n'est pas le bon, on change de méthode et on fait en sorte à ce que finalement le résultat soit quand même celui qui est escompté dès le départ.
On a connu ça dans le cadre du référendum pour le traité établissant une constitution pour l'Europe. Il y a eu des versions consolidées du traité de Maastricht, Amsterdam, Nice, Lisbonne. Mais l'esprit reste le même.
On peut dire que l'idée fondamentale a été déjà forgée au moment de l'acte unique, à la fin des années 80, donc libéralisation totale. Ensuite, on a donc le traité de Maastricht qui prépare en quelque sorte l'introduction de l'euro et qui prépare l'austérité perpétuelle. On peut ensuite évoquer par exemple le traité d'Amsterdam 97. Ce qu'il fait principalement, c'est qu'il fixe que le critère de convergence qui ont été fixés dans le traité de Maastricht ne concerne pas seulement l'adhésion à l'Union européenne, mais s'applique de manière continue. Donc c'est en quelque sorte rendre permanent les critères de convergence de Maastricht. Donc en quelque sorte, on ajuste au fur et à mesure, mais l'esprit fondateur reste exactement le même. Pareil avec tous les traités, qu'ils soient à l'intérieur du cadre de l'UE ou pas, qu'on a vu, enfin tous les traités, tous les accords qu'on a vus dans les années 2010, grosso modo, ça visait à renforcer le contrôle de la Commission européenne sur les politiques économiques nationales. Donc on reste dans le même état d'esprit, mais on resserre en quelque sorte le contrôle des institutions européennes sur les budgets et sur la dépense nationale.
A pointé deux grandes crises. Une première, une crise financière, et puis après, il y a la crise sanitaire. Est-ce que, d'une certaine manière, ça n'a pas démontré que quand il y a vraiment une crise très forte, les États européens peuvent donner des réponses qui permettent de s'en sortir ?
Pour la crise financière, si vous regardez la Grèce, en 2015, après je ne sais combien de plans soi-disant de sauvetage, Grèce en 2015 était toujours plus pauvre que la Grèce en 2007. Donc c'est 8 années de perdu pour les Grecs. De la même manière, que ce soit en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Italie, 8 ans après la crise, les salaires réels étaient toujours plus faibles qu'avant la crise. Donc les mesures mises en place par les institutions européennes, de concert d'ailleurs avec le FMI, en réalité n'ont pas vraiment rendu les pays en crise plus prospères. Et d'ailleurs, j'ai évoqué tout à l'heure cette division de l'Europe entre un centre et une périphérie au sud et une autre périphérie à l'est. Et à nouveau, pendant la crise, on voit très très clairement que la crise, en fait, touche pas les pays de la même manière. Elle touche plus fortement les pays périphériques qui sont pour l'est, qui ont un modèle d'industrialisation dépendante vis-à-vis du centre et qui, pour le sud, est totalement financiarisé. Et ces pays ont une crise autrement plus profonde que les pays du centre où, après 2008-2009, on observe déjà un premier redressement, alors que en 2009-2010 jusqu'en 2015, les pays de la périphérie s'enfoncent dans la crise qui va être beaucoup plus longue et aux effets beaucoup plus violents pour une grande majorité de la population. Donc la gestion de crise me semble qu'elle ne mérite pas réellement d'être qualifiée de réussite et on n'a pas vraiment vu des preuves de solidarité à ce moment-là. Même au contraire, l'idée de réellement soutenir un pays en difficulté a toujours été refusée par les pays du centre et notamment par l'Allemagne. Et ensuite, la crise sanitaire. Alors, on a beaucoup parlé de plan de relance européen, mais le propre d'un plan de relance, c'est d'intervenir immédiatement pour parer d'urgence aux conséquences d'une crise. Alors, il se trouve que le plan de relance européen, il intervient au plus tôt à partir de 2021. La distribution de fonds s'étale sur 2022, 2023 jusqu'en 2024. Donc, on n'est plus du tout dans l'urgence. Et ceux qui ont dû intervenir, c'était à nouveau en réalité les États. Alors, il y a eu un petit arrangement pour qu'une partie des dépenses soit financée par une levée de fonds de la Commission européenne, mais dont on ne sait toujours pas comment elle va être financée. Donc, à l'heure actuelle, il paraît probable que l'endettement de la Commission européenne va tout simplement être réglé par les contributions nationales des États. Donc, en réalité, là, on n'a pas de gros changements. Et on voit aujourd'hui, à nouveau, que typiquement, les écarts entre les rendements sur les obligations d'État italiens et allemands sont repartis à la hausse. C'est toujours la même histoire. Les inégalités au sein de l'Europe, elles demeurent.
Est-ce qu'à une certaine échelle, la notion de dette, ça devient quelque chose qui n'a plus de sens, en fait?
Alors, pour les États, c'est effectivement très différent.
Là, c'est les avions, mais ça prend moins de temps.
Il est primordial de bien comprendre que l'endettement d'un État ne fonctionne pas selon les mêmes mécanismes que l'endettement d'un ménage, parce qu'un ménage a effectivement des limites à son endettement, c'est son revenu. Mais l'État, il est différent du ménage parce que l'État peut fixer lui-même son revenu, parce que l'État peut fixer la fiscalité. Donc un État peut très facilement s'endetter, il n'y a pas de limite, parce que l'État peut toujours fixer ses propres capacités de remboursement. Alors, en 2011-2012, il y a eu une étude qui disait quand un État est endetté au-delà de 60% de son PIB, ça freine la croissance. Il se trouve que cette étude était truffée d'erreurs et qu'aujourd'hui, des études du FMI montrent très clairement qu'il n'y a pas de lien entre un niveau d'endettement et la croissance. Donc, c'est pas parce qu'on est fortement endetté que ça réduit la croissance. Donc, les États peuvent s'endetter autant qu'ils veulent et de toute façon, ils font rouler la dette. Ils ne remboursent jamais le principal, ils remboursent les intérêts et une fois qu'ils doivent rembourser le principal, ils s'endettent à nouveau. Après, il y a quand même une chose qui est vraie, c'est qu'on paye toujours un taux d'intérêt sur la dette. Pour l'instant, il est toujours très faible. Malgré l'augmentation des taux, il reste toujours très faible. Mais ce taux d'intérêt-là, il est in fine payé aux plus aisés des ménages, parce que c'est eux qui ont les fonds disponibles pour prêter aux États. Et donc là, ça renforce les inégalités. Et se pose tout simplement la question, si on veut poursuivre comme ça, payer les plus riches en contrepartie de leurs fonds, ou alors tout simplement augmenter la fiscalité sur les ménages les plus aisés. Donc ça, c'est une décision politique à prendre.
Pour juste terminer, pour une ouverture, on s'imagine qu'il y aura le traité de Nantes qui va éliminer tous ces problèmes d'injustice, d'inégalité. Qu'est-ce qu'il faudra y mettre dedans?
Alors pour ce futur traité de Nantes, ce qui me semble important, c'est de s'interroger sur les conditions qui permettent un réel rattrapage des pays périphériques de l'espace européen. Et alors ça, on le sait en économie, ça passe par cette idée de la protection des industries naissantes. Et la protection des industries naissantes, c'est une expérience réelle, pas seulement un concept économique, qui consiste à subventionner de nouvelles industries dans des endroits qui soit n'ont pas d'industrie, soit sont fortement désindustrialisés. Parce qu'une fois que vous êtes désindustrialisé, en réalité, les mécanismes du libre-échange ne vous permettent pas de rétablir une industrie. Donc, ça passera nécessairement par toute une série d'entraves à la libéralisation et la protection des industries naissantes, donc la réindustrialisation, passe nécessairement par des mécanismes protectionnistes. Et je dirais que là, pour ce traité de Nantes, on a quand même une ouverture historique. C'est qu'avec le changement climatique et les problèmes aussi liés à la biodiversité, il est primordial de développer une industrie verte. Et donc, un projet pourrait consister précisément à soutenir l'industrialisation verte des espaces périphériques de l'Europe et de l'organiser de sorte à ce que des bouts d'industrie verte existent dans les différentes parties de l'Europe, de sorte à permettre une industrialisation de niveau équivalent aux différents pays qui font partie donc de ce même espace. Mais évidemment, le traité de Maastricht ne permet pas cela.
Quand vous dites qu'il faudra une dose de protectionnisme, à quelle échelle? À l'échelle nationale, à l'échelle européenne, à l'échelle régionale?
Alors le cadre politique qu'on veuille donner à cette dynamique, c'est un choix politique. Alors on peut le mener à l'échelle nationale, et on a une série de pays qui ont réussi de cette façon-là. On peut penser à la Corée du Sud, on peut penser à Taïwan, dans une certaine mesure même la Chine. Donc ça c'est possible à l'échelle nationale, mais on pourrait aussi l'imaginer à une échelle plus grande si l'idée derrière consiste aussi à ne pas seulement industrialiser un seul pays, mais de créer une sorte de réseau d'industrie verte à une échelle plus large qui peut du coup comprendre plusieurs pays ou un continent. Parce que, effectivement, si on planifie cette industrialisation verte, eh bien, ça permettra aussi d'éviter des écarts trop grands entre les différents pays qui ensuite pourront à nouveau être source d'inégalités.
Merci à Benjamin Burbaumer, maître de conférences en économie à Sciences Po Bordeaux, auteur du « Souverain et le marché » paru aux éditions Amsterdam, pour sa libre participation à ce programme, réalisé avec le concours de l'UMA Café de Nantes.
Vous ne suggérez pas la sortie de l'Europe pour la France ?
Alors, j'ai mentionné tout à l'heure que les traités actuels ne permettent pas typiquement de mener cette industrialisation verte. Les traités ne permettent pas non plus d'être changés, en tout cas pas avec les équilibres politiques existants. Donc partant de là, ce qui est toujours possible de faire, c'est de dénoncer un traité. Et donc je pense que ça doit être une option qui doit être envisagée.